bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez toujours évidemment nous écouter sur 89.4 FM et bien sûr sur le site internet de la radio www.fédération-anarchiste.org. L'émission s'appelle Toujours au-delà du RL, c'est tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. Et en cette rentrée 2025, nous sommes toujours à l'antenne.
Eh oui, fidèle au poste, au rendez-vous.
Ça va Yannick ?
Pendant que Paulette s'amuse à côté et pas du tout concentrée.
Si, non, mais je trouvais ça amusant que ça ait l'air d'une surprise qu'on soit toujours à l'antenne.
Bah, c'est toujours à chaque fois
c'est
une surprise.
Toujours une surprise.
Et non. Une agréable surprise.
Non, on attend d'être censuré, viré et on est toujours là.
Oh, parce qu'on est sage.
Ouais, on va essayer de pas insulter les gens à l'antenne, n'est-ce pas Yannick ?
Oui, bah moi j'insulte personne. Je me tiens toujours...
On verra tout à l'heure.
Ok.
Comment allez-vous ? Eh oui Paulette, bienvenue encore.
Oui.
Ça c'est une surprise par contre, hein. Ça c'est une vraie surprise.
Ah, parce qu'elle est en CDD elle. On sait pas si elle va revenir chaque mois.
À chaque mois on se pose la question et bon, bah écoute, a priori c'est que ça se passe bien.
Bah ça va, il est motivé. Bon bah elle est là.
Bon, on gagne quelques auditeurs et auditrices quand même grâce à elle.
Ah tu crois ?
Ouais, bah on l'a fait pour ça.
C'est vrai. C'est vrai, pour rien d'autre.
Alors, chers auditeurs, ce sont mes adieux ce soir.
Elle dit ça à chaque fois.
Ouais, enfin fais gaffe, un jour ça va vraiment se passer.
C'est vrai, et on n'aura que nos yeux pour pleurer.
Et rien que ça pour le coup.
En attendant, on va passer un bon moment ce soir.
Oui, on va essayer.
Dans ce 43e épisode de la DURL.
Ben oui.
Avec une thématique inédite encore.
Ouais, on a encore essayé de réfléchir à une thématique inédite. C'est vrai qu'on avait souvent réfléchi à adapter une de nos émissions qui parle souvent de cinéma. On a fait pas mal de musique de films, dont la dernière qui était en avril 2025 ou avril 2024, je sais plus. En avril, ne te découvre pas d'un film.
Ah oui, c'était l'année dernière. Ah,
c'était l'année dernière, ouais, c'était très réussi. Et ce mois-ci, on va encore vous parler de musique dans des films, mais pas que. Ah oui.
On va parler de caméos d'artistes.
Ouais, caméos d'artistes.
De groupes fictifs.
Groupes fictifs dans des séries, dans des films, c'est-à-dire des apparitions d'artistes célèbres, musiciens, musiciennes, mais qui ont aussi taquiner le petit écran et le grand écran.
Voilà, d'une manière appuyée ou non. Plutôt pas appuyée, parce qu'on avait déjà fait une spéciale carrière alternative.
Ouais, carrière alternative, où on parlait d'un peu de tout et de la vie parallèle de certains artistes, comme Didier Vampas, qui était électricien dans le métro, par
qui
exemple.
Qui était un comédien au cinéma, oui. Et on parlait de Ryan Gosling aussi, qui est connu comme étant acteur et qui avait son petit groupe à lui aussi. Mais ce soir, on va parler
David Lynch
de
aussi.
David Lynch,
dont on parlera peut-être dans la spéciale Nécro de dans deux mois.
Sûrement.
Voilà. Paulette, on lance le générique, ça vous va ?
Oui. Faites.
Et donc c'est la spéciale Au-delà du RL, spéciale crossover, 143e épisode et saison 11, dernier épisode de la saison 11. Puisqu'on a des saisons qui commencent en octobre, et oui.
Oui, c'est compliqué.
On vous expliquera ça un peu plus tard. On y va, c'est parti.
Il y a certaines choses en ce monde qui sont tout à fait au-delà de la compréhension humaine. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses que la plupart des gens ne veulent pas savoir. C'est là que nous intervenons.
Eh bien, imagine que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Inversion complète de la charge des protons.
J'ose espérer que vous n'allez pas prendre au sérieux ces énergumènes.
Au-delà du RL, 143e épisode ce soir, en ce mois de rentrée, le mois de septembre, pour les spéciales crossover sur Radio Libertaire 89.4 FM, partout sur nos réseaux et bien sûr sur radio-libertaire.org, le site de la radio. Alors, c'est quoi la spéciale crossover ?
Bonne question.
Bonne question. Alors, ce soir, on va parler de groupes fictifs, de caméos d'artistes dans des longs ou des courts-métrages, des vrais rôles au cinéma, de la figuration, des apparitions, ou alors qui ont été carrément coupés au montage. Les musiciens et musiciennes de ce soir ont délaissé le mur du son pour se vautrer dans le grand et le petit écran de manière récurrente ou pas. On va voir ça, tout ça, ce soir. Et on commençait l'émission avec les ZZ Top, mon bon Flo.
Ouais, tu as bien résumé. Pour les ZZ Top, il s'agit d'un one-shot, effectivement. Vous avez entendu en intro Double Back, qui est une chanson du groupe américain ZZ Top qu'on retrouve dans leur 10e album studio Recycler, qui est sorti en 1990. Mais à l'origine, le titre fut composé spécialement pour figurer dans le film Back to the Future numéro 3.
Ah oui.
Retour vers le futur 3, effectivement, vous l'avez tous vu.
Oui, c'est pas le meilleur de la trilogie, je trouve.
Oui, il est bon quand même.
C'est pas le meilleur, mais ça va.
Oh, le 2, il est bien. Il est mieux. Il est bien mieux.
Oui, mais il reste agréable à regarder quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
En tout cas, c'est le troisième volet de la trilogie de Robert Zemeckis, qui est sorti également en 1990, et on retrouve la chanson dans le générique de fin. Alors, on retrouve la chanson, la version studio. Là, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est la version qu'on a entendue en intro, cette version instrumentale plutôt country.
Très country, oui.
Très country, ouais. Et c'est là où nos trois barbus apparaissent bien dans le film, puisqu'ils jouent effectivement cette version instrumentale country. Dans une scène où Marty part à la recherche du Doc en 1885. Et donc c'est cette version réarrangée par Alan Silverstein qu'on a écouté en intro. Alors Alan Silverstein, c'est le compositeur attitré. Ah oui, Alan Silverstein, c'est mieux. C'est le compositeur attitré de Robert Zemeckis. Il a fait énormément de titres et de morceaux qui figurent dans les bandes originales du film de Zemeckis. Mm-hmm. Il est également, et entre autres, le compositeur officiel de la franchise Avengers.
Oui, Forrest Gump aussi.
Ah oui, Forrest Gump aussi.
Un excellent score.
Ouais, clairement. Et Robert Zemeckis, lui, il a plutôt eu l'habitude de faire appel à des artistes. On pense notamment à Flea.
Oui.
Que j'appelle Flea après l'avoir appelé Flea pendant de nombreuses années. Je m'auto-dénonce, c'était il y a 15 ans.
C'est voilà. Très mignon.
C'est très pratique de s'auto-dénoncer.
Le bassiste des Red Hot. Non, c'est dans des bêtisiers qu'on peut encore réécouter sur le SoundCloud.
Tout à fait.
Voilà, le bassiste évidemment des Red Hot qui joue dans les volets 1, dans les volets 2 et 3, pardon. Bon, alors, Flea pour le coup, il joue dans énormément de films. Mm. C'est presque acteur et presque son. Devenu son vrai métier.
Oui, je crois qu'on l'a mis dans la carrière parallèle, je crois.
C'est très probable. Ouais, il a une sacrée filmographie.
Vous nous direz.
En plus d'une grande discographie avec les Red Hot en solo. Il y a aussi dans le volet 1 un caméo de Huey Lewis. Alors, qui est Huey Lewis? Et ben, c'est tout simplement le compositeur de la bande originale du premier volet. Si vous vous souvenez évidemment du titre The Power of Love. Exactement, c'est
très connu aux États-Unis.
Ah, ouais. Et donc c'est le titre qu'on retrouve dans le volume 1. C'est d'ailleurs le moment, la fameuse scène où Marty McFly joue le fameux Johnny B. Goode de Chuck Berry. Et Huey Lewis fait un petit caméo à ce moment-là. Voilà.
Et dans Retour vers le futur 3, les ZZ Top, vous ne pouvez pas les louper puisqu'ils font tourner leur guitare sèche là pour le coup, parce que c'est la version country.
Oui.
Sur elle-même, c'est comme ça qu'on les a identifiés pendant très longtemps.
Et à leur barbe.
Oui, leur barbe aussi.
Mais beaucoup de gens étaient barbus en 1885.
Ils se font très bien dans le décor.
Oui, complètement. Oui. C'était une très très bonne idée, je pense.
Ouais.
Et alors, des artistes qui sont apparus dans un long métrage, on en a un autre ce soir qui va nous titiller les oreilles incessamment sous peu, c'est Iggy Pop.
Ah oui.
Avec le titre I Wanna Be Your Dog. C'est un extrait du Live at Rock for Choice. C'est extrait de la BO de The Crow, City of Angels. Alors c'est pas The Crow, le premier film dans lequel Brandon Lee est décédé malheureusement sur le tournage. C'est la suite avec Vincent Perez. Tu l'as vu, non?
Non.
Toi, c'est Vincent Perez qui reprend le rôle titre.
Ouais. Toi tu l'as pas vu?
Non.
Alors c'est tragique parce que le film est vraiment mauvais. Quoique à l'époque on disait ça. Il faudrait que je le revoie pour me refaire une opinion aujourd'hui. Et du coup, City of Angels, The Crow, qui est sorti en 97, nous avions 17 ans. Mon bon Flo, tu te souviens?
J'essaie d'imaginer l'âge de Pauline à l'époque.
Ah oui, t'avais quel âge en 97? T'étais mineur, vachement.
J'étais bien mineur.
J'avais vu 8-9 ans.
Alors Iggy Pop, il fait pas juste une apparition dans le film, hein, il joue carrément un rôle, c'est un des adversaires du personnage principal. Le film The Crow 2 en lui-même n'a pas laissé un souvenir impérissable. Iggy Pop était à l'origine pressenti pour jouer Fun Boy dans le 1. C'est un des personnages, un des méchants dans The Crow 1. Et en fait, son emploi du temps l'empêchait de tourner. Et hop, rebelote, on lui propose pour The Crow 2. Et donc, il a fait banco. Il a fait d'autres apparitions notables aussi et ô combien marquantes dans plusieurs films. Dead Man de Jim Jarmusch, bien sûr. Et The Crow 2, je viens de le dire, en 95, on n'avait pas tant de films que ça, en fait.
Si, dans le film de Jarmusch où il y a des zombies.
Le film de Jarmusch où il y a des zombies.
Un des derniers films de Jarmusch avec Bill Murray et Adam Driver.
Zombie Apocalypse ou un truc comme ça.
Alors, c'est pas du tout le titre.
Il y a zombie dans le titre.
Dead Can Dance.
Non. Bon, on cherchera. On vous le redira plus tard.
Il y a Iggy Pop en zombie, ça lui va très bien.
Ah oui.
C'est vrai que ça lui va bien.
Donc voilà, bah on va écouter ça tout de suite du coup, Iggy Pop.
Ah oui, on y va, ouais. Avec la version live en plus.
Ah oui, oui, qui est extrait donc de la BO de City of Angels, The Crow, sorti en 97. Et c'est parti pour cette spéciale crossover de la DURL sur
Radio Libertaire 89.4 FM.
Toujours dans cette spéciale crossover d'Au-delà du RL, on parle de cinéma, on parle de musique, des apparitions, des caméos, des participations d'artistes plus ou moins connus dans des films, voire des films qui traitent de l'artiste eux-mêmes, comme avec les Ramones, ma chère Paulette.
Oui, alors pas tout à fait. En fait, les Ramones, c'est un prétexte à un super bon film de lycée qui s'appelle Rock and Roll High School. C'est un film qui est sorti en 1979, réalisé par un certain Alan Arkush, dans lequel on suit une jeune fille toute en blondeur et en couette, dont le rêve est de rencontrer les Ramones, pour lequel elle a écrit une chanson qui donnera son titre au film Rock and Roll High School.
Mais c'est parce que ton histoire, en fait.
Sauf que cette jeune fille fait la queue pendant 3 jours à l'entrée d'une salle de concert en attendant son groupe favori qui déboule dans les rues en train de chanter « I just wanna have something to do », soit le morceau que l'on vient d'écouter, qui figure aussi sur l'album « Road to Ruin » de 1978. Je suppose que vous n'avez pas vu le film.
Non, tu vas nous raconter, est-ce qu'elle finit par voir le groupe?
Bah oui, parce que le groupe arrive. Justement, elle les voit débouler dans la salle de concert. Elle arrive à avoir une place pour le premier rang. Et là, la proviseure du lycée, qui elle veut protéger ses élèves et son établissement du rock, qu'elle associe évidemment au pire mot de la terre, lui confisque les places. Donc elle cherche, donc la jeune fille cherche à rencontrer son groupe en participant à un concours pour lequel elle écrit donc une chanson et qui finira par trouver le chemin des Ramones.
Ah mais tout le film tourne autour de cette rencontre-là en fait.
Ouais.
Ah d'accord.
Et à la fin, la méchante principale,
Madame Musso.
elle est mieux coiffée que Madame Musso. Je vous invite à voir le film. On peut le voir en streaming gratuit sur internet. Brûle des disques de rock, dont des disques de Bob Dylan, d'ACDC et des Ramones. Et là, les Ramones arrivent et aident les jeunes à mettre le lycée à sac.
Ouais. Ah bah c'est bien, quel exemple.
Une très belle conclusion.
Pour la jeunesse.
Ils ont participé à l'élaboration du film.
Non, en fait, c'était pas eux qui étaient pressentis pour participer au film. Il y avait deux autres groupes qui étaient pressentis avant mais qui avaient refusé. Et il y a un des gars qui bossait sur le film qui a dit pourquoi pas les Ramones. Qui apparemment était très content.
Ah bah très bien, écoute. Bah je connaissais pas le film et je connaissais pas cette histoire-là.
Mais comme elle nous a raconté la fin, on le regardera peut-être pas.
Bon, à mon avis, c'est pas tellement un film à plot twist non plus. À twist peut-être, mais pas à plot.
Ouais, qu'il est drôle.
Un twist un peu.
Bref. Finis ta phrase, Flo.
Un peu saccadé.
Alors la suite, après les Ramones, qu'est-ce qu'on va écouter?
Ah bah là tu vas être content, t'as réussi à placer un petit bout de Radiohead dans notre sélection.
Ouais, plusieurs petits bouts, mais on verra ça un peu plus tard.
Non, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Tu vas nous parler d'Harry Potter.
Oui, voilà,
je l'ai pas vu.
Et t'as pas vu Harry Potter?
Non, on va me jeter des...
Aucun
Harry Potter. J'ai pas vu Harry Potter, j'ai pas vu le Seigneur des Anneaux, j'ai pas vu...
Oh, t'as pas vu le Seigneur des Anneaux?
Non. Je suis pas très film fantastique.
Tu peux voir l'un sans voir l'autre. Hein. Bon bref.
Pas c'est vrai, oui, bon bref.
Mais je l'ai pas lu non plus alors.
Non mais ça, ils
pas. Non mais je comprends, je comprends. Je ne juge pas.
C'est pas grave, hein. Ça arrive à des gens bien.
Oui, non,
je ne connais pas les copains. Masses, mais bon, c'est son opinion personnelle. Voilà.
Donc, alors, donc,
alors on va, oui, Flo a raison, on va aller un peu dans l'univers de Harry Potter. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez que dans Harry Potter, il y a un groupe qui s'appelle The Weird Sisters. Et oui, The Weird Sisters. Et comment ils ont fait quand il y a eu les films pour, incarner les Weird Sisters à l'écran? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont pris ni plus ni moins que Jarvis Cocker et Steve McKay de Pulp.
Pas mal.
Ils ont pris Phil Selway et Johnny Greenwood de Radiohead et ils ont fait les Weird Sisters qu'on voit dans un plan qui dure.
Allez, les Weird Sisters.
Les Weird Sisters. Un plan qui dure peut-être 3 secondes grand max.
Ah ouais.
À l'image. Et voilà, et on va écouter le...
Ça, c'est un super groupe, ça.
C'est une espèce de super groupe fictif, les Weird Sisters, avec des membres de Pulp et de Radiohead. On en rêverait dans la vraie vie, je pense.
C'est clair, ouais.
Et encore une fois, on les voit vraiment un tout petit peu à l'image. On ne voit pas Thom Yorke de Radiohead, notamment. On en parlera peut-être un peu plus tard.
Mais il n'est pas dedans.
L'émission. Il n'est pas dedans.
Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas.
Oui, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Oui, c'est parce qu'il n'est pas dedans, effectivement.
Il y a plein d'autres gens qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dedans. Oui. On ne va pas tous les citer.
Ah, de Radiohead, mais on ne va pas passer Colin Greenwood, qui est le frère de Johnny, qui est le bassiste. Et pourtant, j'y suis.
On ne voit pas Jimi Hendrix.
Parce qu'il y a un personnage qui porte mon nom de famille dans Harry Potter.
C'est vrai.
Ah bon?
Ah oui, tu le sais.
En anglais?
Bien sûr.
En anglais, non, en français seulement. En anglais, je ne sais même pas ce. Bah, pas mon blaze à l'antenne.
Ah non, je l'ai dit en anglicisé.
On savait bien que c'était Yannick Voldemort, de toute façon.
Ouais, j'ai la même coupe.
Bon, allez, j'irai voir ce film-là d'Harry Potter, juste pour le plaisir d'écouter Jarvis Cocker.
Oui.
Et ce super groupe des Weird Sisters.
C'est ça qu'on va écouter maintenant.
Ouais,
qui est issu de la BO de Harry Potter and the Goblet of Fire. C'est le 4e épisode de la licence Harry Potter. C'est sorti en 2005.
Oui.
Do the Hippogriff. I guess it.
C'est quoi the hippogriff? Ça veut dire quoi déjà?
Un hippogriff,
c'est une créature dans le monde d'Harry Potter.
Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que je connais pas.
C'est de la zoocryptologie, les hippogriffes.
Ok. Ok.
Et voilà, tête d'aigle, serre d'aigle, aile d'aigle. Qu'est-ce qui différencie d'un aigle? Il a des pattes, peut-être, sûrement.
Mais les aigles, ça a des pattes.
Allez, on écoute Jarvis Cocker, Do the Hippogriff? I don't know! But we are listening to Radio Libertaire 89.4 FM sur Radio Libertaire.
C'est parti.
Mama.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire pour cette spéciale crossover, caméo, tout ce que vous voulez. On a lutté sur le nom.
Voilà.
Et nous venons d'écouter un titre qui m'est cher que va nous présenter Flo.
Ah oui, c'est ton choix à la base, hein, les Dandy Warhols, avec ce titre We Used to Be Friends, mais je te l'ai piqué. Parce que j'aime beaucoup, j'adore ce titre.
Non, j'aime bien partager.
Ouais, ouais. Excellent titre des Américains de Dandy Warhols avec ce morceau We Used to Be Friends qui peut très bien parler de notre amitié à Yannick et moi, par exemple.
Vous n'êtes plus que collègues maintenant, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça. En tout cas, c'est sorti en 2004. Auparavant, le groupe s'était fait connaître grâce à leur deuxième album et notamment un titre qu'on avait retrouvé au cinéma, c'était la chanson « Every day should be a holiday ». On retrouve ce titre dans la bande originale du film des frères Farrelly, « Marie à tout prix ».
Ah, qui est un de tes films cultes.
Avec Cameron Diaz. Je crois que je l'ai vu une fois et j'ai fait avance rapide sur mon magnétoscope de l'époque parce que c'était pas terrible.
J'ai jamais vu.
Bon, c'est pas très...
C'est extrêmement potache. Oui, ouais, c'est très potache. Des frères Farrelly et compagnie.
En tout cas, le groupe avait déjà ensuite atteint sa popularité maximale grâce au troisième album sorti en 2000. Vous vous souvenez de ce titre Bohemian Like You qui a cartonné. On l'a d'ailleurs retrouvé dans pas mal de pubs et aussi dans pas mal de bandes originales de films et de séries comme Buffy contre les vampires.
Ah. Dédicace à mon frangin qui est archi fan.
Et oui, et dans Buffy contre les vampires, puisqu'on est dans la spéciale caméo et participation d'artistes, notamment en concert, il y avait cette salle de concert, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait le Bronze. Et au Bronze, c'est le nom.
Parce qu'il y a des douchettes.
Évidemment, américain. Au Bronze, il y avait une quantité de super artistes qui jouaient en live pendant la série. Il y avait toujours une petite scène musicale.
Ah ouais, ah de ouais. Vrais artistes.
Bah, il y a eu Garbage. Il y a eu des super trucs. Ouais. Ouais, ouais.
Mince.
Et dont, effectivement, les Dandy Warhols. Donc, c'est aussi un bon choix. Mais pourtant, Paulette, il me semble que tu as choisi les Dandy Warhols, non pas en référence à Buffy contre les vampires, mais en référence à la série Véronica Mars.
Bah oui, non mais vous me regardez non, les deux.
Oui.
Là.
Ah bah oui, c'est toi qui l'as proposé, Véronica Mars.
Ah mais vraiment. J'adore Véronica Mars. J'assumerai jusqu'au bout. Vous avez jamais regardé, vous savez même pas de quoi ça parle.
Je connaissais même pas la série. Je pensais que c'était au début quand t'as proposé ça dans les infos, je pensais que c'était une série pour ados, pour les enfants, un truc comme ça.
Ah, c'est un peu.
Je sais
ça,
pas, ça sonne ça, ça sonne Disney en fait, non? Oh les dig.
Rien à voir avec Bruno Mars, non? Ou Avril Lavigne, je ne sais plus.
Ah oui, peut-être.
Bon, en tout cas, c'est dans le générique. C'est le générique de Véronica Mars.
C'est le générique, ouais. Et on voit le chanteur des Dandy Warhols dans un épisode de la saison 2 ou 3 chanter dans un karaoké. Ah, okay. Love Hurts, mais le morceau, on va pas se le fader. Donc le générique est bien mieux.
C'est un beau caméo, enfin une belle participation d'artiste.
Ouais. Ouais. Mais je veux juste revenir sur Véronica Mars. Ouais. C'est hyper bien.
Bon, on regardera alors. Bah, il y a combien de saisons?
Alors, c'est assez marrant parce que toi, Yannick, aime bien les histoires de fans. Au départ, il y a eu 3 saisons. Ça s'est arrêté faute d'audience. Et il y a toute une fanbase qui est hyper... Non, il n'y avait que 2 saisons, je crois. Ou 3, je ne sais plus. Il y a une fanbase qui est hyper active et qui a milité pour avoir une autre saison. Ils n'ont pas eu gain de cause. Du coup, il y a eu un film, histoire de régler plusieurs intrigues. Puis, il y a encore eu des demandes pour avoir une nouvelle saison. Et la 4e saison est sortie, là, il y a 4-5 ans.
Ah ouais.
Où donc, on suit les personnages adultes. Et Véronica Mars, en gros, c'est une lycéenne qui est la fille de l'ancien shérif du Bled.
Attends, l'actrice, elle est lycéenne là?
Mais elle est plus trop lycéenne.
Sur les photos?
Bah, ça dépend de quelle photo.
Bah, sur la couverture du truc qu'on a vu tout à l'heure, elle est pas lycéenne.
Bref, elle est lycéenne. C'est la fille de l'ancien shérif du Bled. Et elle est confrontée à des trucs pas très gays, des histoires de meurtre, et voilà. Et du coup, elle enquête parce que. C'est une bonne détective privée.
Tu nous présentes ça bien, ça donne envie.
Franchement, c'est hyper bien. Je pense que c'est la série que j'ai le plus vue et revue de ma vie.
J'ai hésité entre ça et Buffy contre les vampires, mais je pense que je vais regarder Véronica Mars.
J'ai jamais vu Buffy contre les vampires.
Si, c'est vrai?
Pas un épisode.
Ouais. C'était pas mal. Enfin, jusqu'à au moins la saison 2. Après, bah, comme pour Véronica Mars, il y a eu des la série a failli s'arrêter. Et puis il y a eu des lettres de fans, etc. Oui, parce qu'à l'époque, c'était des lettres de fans pour dire, et puis ça a dégénéré complètement. Bref.
Il y a plein de gens de Buffy contre les vampires qui apparaissent dans Véronica Mars. Ça, je sais.
Ah, c'est une espèce de crossover dans le crossover alors.
Ouais. Et comme Buffy contre les vampires, la BO est super. Il y a des morceaux de R, de Dacine Vegas. Moi, j'ai découvert plein de trucs quand j'étais au lycée grâce à Véronica Mars.
Très bien. Bah, on va passer à...
Bon, alors, la suite, c'est quoi?
À d'autres crossovers.
J'étais trop longue.
Non, maintenant, on va passer à la catégorie des groupes fictifs, c'est-à-dire des groupes qui n'existent pas dans la vraie vie, mais qui ont une existence tangible dans une série ou un film. Et là, tu vas, mon cher Flo, tu vas nous parler des Wonders.
Ouais, alors, c'est presque un groupe qui pourrait exister d'ailleurs. On va écouter la chanson titre du film de Tom Hanks, de That Thing You Do, hein, qui est le titre du film sorti en 1996, qui est un long métrage qui suit le succès d'abord local d'un tout jeune groupe dans les années 60. Et The Wonders, c'est le nom du groupe, c'est aussi le nom du groupe fictif, hein. On va écouter le titre That Thing You Do, qui est plutôt accrocheur, hein, vous allez voir, on dirait qu'il sort tout droit des charts de 1964. Eh bien non, le titre a été composé spécialement pour le film, donc en 1996, suite à une annonce passée par Tom Hanks, et c'est Adam Schlesinger, qui est le bassiste de Fountains of Wayne, dans la vraie vie, qui a été choisi pour avec cette chanson, qui a proposé ensuite à Tom Hanks. Et donc le groupe fictif du film, The Wonders, a été créé pour l'occasion. La chanson a tellement cartonné d'ailleurs, qu'elle a même été nommée pour les Oscars en 1997, Oscar de la meilleure chanson originale. C'est pas mal pour un groupe fictif.
Oui, effectivement, puis ça a dû relancer la promotion pour le film.
Oui, clairement, ouais.
Ouais, en fait, il y a déjà Tom Hanks.
Le succès de la chanson a dépassé le succès du film.
Mmh, oui,
c'est assez étonnant parce que le film est un petit feel-good movie à l'américaine, mais assez sympathique quand on aime la musique comme moi. Mmh. Mais c'est pas...
Est-ce qu'il fait partie des films cultes comme... Parce que toi, je sais qu'il y a...
Mais j'ai beaucoup de films cultes.
Non, mais rapport à la musique.
Rapport à la musique.
Il y a High Fidelity.
Ouais, voilà. Et puis bon, évidemment, les films sur...
Un autre qu'on va entendre ce soir.
Ouais, et aussi du même réalisateur, The Wall, évidemment, Alan Parker, ou le film sur les Doors. Mais effectivement, c'est un film agréable à regarder, où on voit effectivement un petit groupe qui tout d'un coup passe à la radio, et c'est le succès.
Mm-hmm. Voilà.
On est aussi nostalgique de ces années où on pouvait devenir célèbre en passant à la radio, et nous qui ne le sommes absolument pas.
Il parle pour lui.
On devrait être des stars parce qu'on a une émission sur la Bande FM, mais c'est pas le cas, mais c'est pas grave.
Ouais,
on
vit
très bien quand même.
Libre, en plus, ouais.
Je suis content de faire mes courses et de ne pas être connu au supermarché.
Les gens ne crient pas sur votre passage?
Pas toujours.
C'est curieux, ça.
Mais moi, c'est pas pour la renommée, c'est parce que je fais des trucs, mais je peux pas en parler avant.
On écoute That Thing You Do du groupe The Wonders pour cette spéciale crossover. Et c'est parti tout de suite sur Radio Libertaire 89.4
FM,
si tu veux.
Well, try it. reservation, don't be slow. I'm a no-no, I'm a no-no. Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. I'm a no-no, I'm a no-no. And I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Take the last train to Cottsville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low.
Toujours dans la spéciale crossover d'Au-delà du RL sur Radio Libertaire 89.4 avec cette émission un petit peu spéciale où des artistes bien connus comme le groupe qu'on a écouté à l'instant qui ont aussi eu une vie ou une petite vie, une petite apparition sur le petit ou le grand écran, Yannick.
Eh ben oui, là, c'est carrément plus que ça, puisque dans cette spéciale crossover, on parle de musiciens, de musiciennes authentiques ou fictifs, de séries télé et de cinéma, mais aussi et surtout de show business, parce que, alors, je vais raconter un peu les bails. Nous sommes au milieu des années 60, la Beatlemania bat son plein, et le réalisateur Bob Rafelson, connu chez nous pour avoir réalisé un peu plus tard Blood and Wine en 96, vous l'avez vu ?
Non.
Non, avec Jack Nicholson, et Sans motif apparent, sorti en 2002, avec Samuel L. Jackson, vous l'avez vu ?
Toujours pas.
Voilà, bon, il n'est pas super connu comme réal, mais Bob Rafelson se dit donc en pleine Beatlemania que ce serait pas mal de faire une série télé qui serait à peu près l'équivalent américain de A Hard Day's Night des Beatles, qui était sorti en 64 sur grand écran et qui avait fini d'achever le succès mondial des Quatre Garçons dans le Vent, bien sûr, à l'international. Alors, après avoir fait passer un casting à notamment Harry Nilsson, c'est celui qui avait chanté Without You ou Everybody's Talking, qu'on retrouve sur la BO de Forrest Gump.
Et on retrouve dans la BO de Good Morning England.
Oui, effectivement. Un autre de tes films cultes, je cherchais le titre
musical, c'est normal.
Mais très très bon film.
Sur la radio pirate, ouais.
Exactement. Il a fait aussi appel pour le casting à Stephen Stills de Stills, Nash & Young, mais qui a décliné. Et donc finalement, le réal, il s'est tourné vers quatre jeunes inconnus aux cheveux longs. Alors il y a Mickey Dolenz, qui sera Mickey le facétieux dans la série. Michael Nesmith, qui sera Mike le débrouillard. Peter Tork, qui deviendra Peter le naïf. On parle bien de la série The Monkeys, pas des Sept Nains et de Blanche-Neige.
Il n'a pas le meilleur surnom, lui.
Oui, non. Et enfin, David Jones, qui sera Davy, le beau ténébreux. Un peu comme notre Flo, d'ailleurs. C'est un peu un
toi, tu serais Peter le naïf, à vous.
Mais moi, je te parle plus à toi. Ensemble, ils joueront et la comédie et la musique de la série The Monkeys, qui accouchera de deux saisons seulement, mais de 12 albums studio entre 66 et 2016. Donc, c'est la série qui a été montée pour concurrencer les Beatles. Et ensuite, les Monkeys, ils ont fait leur petit.
Tu veux dire que 2016 le groupe de Monkeys n'existait pas avant.
Non, ils n'existaient pas avant. Ça a été monté de toutes pièces. Je l'ai appris en faisant l'émission. Et le titre Last Train de Two Clacksville, c'est le premier single des Monkees sorti en même temps que la série en 66. C'est le titre qu'on vient d'écouter. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, seuls deux des membres du groupe savaient jouer d'un instrument.
Ah oui, on n'est pas loin de Popstar, là.
On n'est pas loin de...
Mais avec un meilleur résultat.
Voilà, comme quoi, c'est pas nouveau, quoi. Et donc, la voix est assurée par Mickey Dolenz, mais toute l'instru autour est jouée par des musiciens de studio.
Ok. Et après, ils ont appris.
Et après, ils ont sûrement appris, oui, parce qu'ils sont des bah merde, ça marche.
Donc, live.
On va faire plusieurs albums.
Ok.
Et voilà. Et alors, il y a un autre groupe, là, qu'on va s'écouter maintenant. Alors, moi, j'étais archi surpris qu'ils aient fait une apparition. Mais en plus, dans cette série-là. Alors là, le suspense est insoutenable. De quel groupe parle-t-on?
On parle de Sonic Youth.
Sonic Youth,
on parle bien. Plutôt bien.
Ouais.
Par contre, c'est dans Gossip Girl.
Ouf. Alors, j'ai jamais vu, mais je sais que c'est merdique.
Ouais, non, c'est improbable. Donc, je suis sûr que Flo, c'est un fan de Gossip Girl.
Ah oui, c'est certain.
Ça, ce serait comme d'avoir, je sais pas, une apparition de Bob Dylan dans un épisode de Salut les musclés. Ou... je sais pas si on peut faire plus.
L'analogie est bonne.
Ouais, Gossip Girl, pour résumer, c'est une série de la fin des années 2000. Ils sont adaptés de bouquins à succès d'ailleurs. Mmh. Où on suit de riches lycéens new-yorkais qui ont des problèmes de vieux riches new-yorkais.
Ouais, c'est bien
qui
résumé.
Ont
ouais.
Beaucoup de problèmes. Pour le coup, j'ai regardé un petit peu. Donc,
elle a une conscience professionnelle quand même.
À ma connaissance, c'est la seule série où un gars peut acheter un hôtel, échapper à une tentative de meurtre, tromper sa copine, boire 10 whisky dans un bar branché alors qu'il est mineur, évidemment, et aller en cours de maths au cours d'une même journée.
C'est la jeunesse de Flo, ça, que tu nous racontes.
Attends, on veut voir cette série, dis donc, ça donne envie.
Et pourquoi, je ne sais pas, mais dans un des épisodes, on voit une apparition de Sonic Youth,
wow,
qui vient interpréter Star Power dans une version acoustique. Bon, il joue pas longtemps. Hein.
Mais quand même, ça n'excuse pas, oui.
Ça n'excuse pas. Après, c'est pas les seuls, hein, parce que j'ai bossé un petit peu. Et d'autres sont apparus dans Gossip Girl, comme Lady Gaga, Cyndi Lauper dans son propre rôle, No Doubt ou encore Florence and the Machine.
Wow. Je pense que c'était vachement trendy d'être dans Gossip Girl.
Ouais, je pense que ça a tellement bien marché que c'est ça, les groupes, ils y allaient pour se faire un peu de promo. Quoi.
Ouais, mais on parle de Sonic Youth. Ils ont peut-être pas besoin de promo.
Oui, je comprends pas trop. Mais peut-être que Kim Gordon était vachement fan.
Je sais pas. Mais en tout cas, elle a poussé le vice, si je peux dire. Parce que non seulement le groupe apparaît et joue, mais Kim Gordon célèbre un mariage.
Ouf.
Le mariage de deux personnages, les parents.
T'es sûr que c'est pas la quatrième dimension, la série?
On a envie. On vous passera la scène si on peut réussir à voir les images. C'est assez improbable.
Y a une. Alors, j'ai trouvé. Il y a une petite vidéo sur YouTube, mais c'est la version en espagnol.
Ah, c'est pas grave, c'est très bien.
C'est encore plus exotique.
Mais qui passe très bien.
Allez, je vous propose qu'on écoute tout de suite de la bonne musique. Sonic Youth avec le titre Star Power, sans préciser d'où est-ce qu'on sort ça. Belle apparition surprise, ça arrive.
Ça, c'est sûr, c'est une belle surprise.
Voilà. Allez, on écoute ça tout de suite dans cette spéciale crossover
du RL 89.4 FM, bien sûr.
Star.
Toujours dans la spéciale crossover de notre émission de rentrée dans Au-delà du RL. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur vos plateformes de streaming préférées, parce qu'on ne l'a pas dit encore.
C'est vrai.
Et que Yannick...
Normalement on compte sur Yannick, mais voilà. Il est aux abonnés absents ce soir. Donc Deezer, Spotify entre autres, iTunes...
Apple Podcasts...
Ah oui, ton préféré.
SoundCloud...
C'est ça, Deezer et Spotify qui nous supprime des émissions.
Oui.
Au fur et à mesure. Donc, allez plutôt sur SoundCloud, vous aurez l'intégralité des émissions d'au-delà du RL. En tout cas, il y en a deux, trois qui ont sauté, mais sans plus, c'était au début.
C'est toujours mieux.
Mais c'est toujours mieux, le son est bon. Merci SoundCloud de ne pas nous effacer notre émission.
Oh, on n'a plus de strike.
Ouais, non, on n'a plus de strike.
Parce qu'on diffuse plus de rap.
Oui, plus de rap américain, mais c'est eux qui nous strikaient à chaque fois. Bah voilà, c'est bien fait pour vous, les gars.
C'est de la faute des rappeurs, c'est
ouais, c'est la faute des rappeurs. Il y en a encore un qui est mort cet été, là, et on le mettra pas dans la spéciale nécro, un jeune encore.
Parce que quoi?
Parce que, il nous strike à chaque fois. Même mort, il nous strike. Merde.
T'excites pas, Velvet Goldmine, c'est pétard.
Voilà.
De quoi va-t-on parler?
Oui, de quoi va-t-on parler? Lance-moi.
Bah, c'est toi.
Non, mais c'est pas là.
Pardon. Donc, on vient d'écouter quelqu'un qu'on connaît bien.
Oui.
Une blonde.
Et du coup, elle en a fait son nom de scène.
Bon, un jour, on l'a appelée Blondie, elle s'est dit, ça sonne bien.
Voilà, Dalida, c'était pareil, à l'origine, elle devait s'appeler Louchon, et puis en fait, elle a préféré Dalida.
Bah, alors, et Yannick avec Chauve.
Et Bruni aussi, qui a fait son nom de scène, Carla Bruni, mais c'est pas...
Oui, qui a été coupé au montage. J'en parlais dans l'introduction, a été coupé au montage, ou alors, non, elle a juste non, une toute petite juste scène d'un film de Woody Allen. On n'allait pas passer du Carla Bruni. Ouf, non. Heureusement, à la place, on vous a passé du Blondie.
Ah oui,
là c'est mieux.
Avec le titre The Attack of the Giant Ants, qui est sorti en 76, issu de l'album éponyme. Donc. Qui s'appelle Blondie. Alors Debbie Harry, alias Blondie, a été très vite choisie parce qu'elle apparaît, oui, pardon, là je reviens dans les bleus, Debbie Harry, vous dites, elle est chanteuse, elle est apparue dans une série, dans un film. Eh ben, elle a eu un petit rôle, pardon, dans Vidéodrome de David Cronenberg. Je sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Moi, je l'ai pas vu non plus.
Sorti en 83. Bon, c'est pas mon type de film, mais bon, ça passe, quoi. Puis, j'aime bien les films des années 80. Il y a une certaine.
Pourquoi c'est pas ton type de film?
Certaines patines. Parce que les films de genre, c'est un peu toujours la même chose. C'est comme regarder les biopics, c'est un peu toujours la même histoire.
Mais ça raconte quoi?
Vidéodrome, c'est une télévision qui en fait aspire les âmes des gens, les âmes et les corps, etc. Et donc Debbie Harry a donc très vite été choisie par David Cronenberg pour tourner dans Vidéodrome. Il n'a eu qu'à regarder Union City, qui est un film de 1980 dans lequel elle apparaît, et lui faire passer une seule audition à Toronto pour qu'il l'intègre au casting de Vidéodrome. Alors Debbie Harry a déclaré plus tard que James Woods, l'acteur qui incarne Max, le personnage principal du film, plus expérimenté, lui avait donné un certain nombre de conseils utiles pour mieux rentrer dans son rôle. Mais ce n'est pas la seule apparition de Debbie Harry au cinéma. Elle avait fait une apparition non créditée, là pour le coup c'était un vrai caméo, dans un premier film, Deadly Hero, en 1975. Je vous demande pas si vous l'avez vu.
Non.
Non plus. Elle avait incarné son propre rôle, celui de Blondie, dans le film Unmade Beds, sorti l'année suivante, qui est un film un peu indépendant, on va dire. Depuis, elle a eu des rôles plus ou moins importants au cinéma, dans des courts-métrages ou pour des séries et des téléfilms, en total parallèle avec sa carrière avec Blondie. Et la dernière fois qu'on l'a vu au cinéma, c'est dans Lovers, élégie de son titre US, un film d'Isabelle Coixet avec Ben Kingsley et Penelope Cruz. J'ai du mal, qui est sorti en 2008 et dans lequel Debbie joue le rôle de Amy O'Hearn, qui est la femme du héros, etc. Et quel est le titre qui rapproche le plus Blondie du cinéma? C'est évidemment le titre qu'on vient de s'écouter, c'est The Attack of the Giant Ants. Non, ce n'est pas un film issu du cinéma d'horreur des années 50, mais bien le 11e titre du premier album éponyme de Blondie, sorti, lui, en 1976.
C'est vrai que ça sonnait très cinéma.
Oui. Avec un petit
décor de
film en plein milieu. Ouais.
Ouais. Eh ben merci pour cette explication.
Et bien de rien.
Et on va passer à une autre proposition de Paulette avec un
plus sexy.
Ouais, on peut résumer ça comme ça avec pour le coup une vraie apparition d'artiste en live dans un film. Le film c'est Une nuit en enfer.
Ouais, vous l'avez vu?
Oui. Oui.
Donc Une nuit en enfer de Robert Rodriguez qui est sorti en 96. Robert Rodriguez qui est l'acolyte de Quentin Tarantino. Tarantino qui lui a écrit le film en question et qui interprète l'un des personnages principaux aux côtés de George Clooney et de Harvey Keitel. Robert Rodriguez c'est celui qui a réalisé aussi Planète Terreur, le pendant de Boulevard de la Mort.
Exactement, oui.
J'ai pas forcément envie de raconter le film pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Non, faut pas d'ailleurs. Ouais.
Non, faut pas du tout. Moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça et je ne savais rien.
Ah, c'est encore mieux, ouais.
À vrai dire, je connaissais juste la BO.
Ah, oui.
Et je m'attendais pas à ça.
Oui, personne.
Mais faut garder la surprise.
Et si vous n'avez pas vu Une nuit en enfer, allez-y, n'allez pas lire les critiques, n'écoutez pas
non,
les gens, allez-y.
Pas de page Wikipédia, rien. Mm-mm. Faut juste lancer le film. En tout cas, ceux qui l'ont vu se souviennent donc visiblement de la grosse surprise que ça a été, mais aussi de la scène dont on parle avec Salma Hayek. Les gars, je pense que vous vous en souvenez.
Pas du tout. Décris-nous.
Très vaguement.
C'est vrai.
La scène se passe dans un bar de routier, le Titi Twister. Et vous ferez la traduction si vous le souhaitez. Un bar assez étrange, perdu au milieu du désert mexicain. Et nos deux personnages principaux, George Clooney et Quentin Tarantino, accompagnés d'Harvey Keitel et de ses enfants, se retrouvent donc au bar. Et là apparaît le clou de la soirée, Salma Hayek. Simplement vêtue de plumes, d'un serpent et d'un peu de tissu quand même qui entraîne toute la salle au son de la musique de Tito et Tarantula, qui est donc le groupe qui l'accompagne, et d'une danse qui ne laissera personne indifférent.
Même pas toi, j'ai l'impression.
Non, c'est superbe cette scène.
Ouais, oui.
T'es dur en affaire.
Non mais c'est striptease. Bon voilà. Non mais c'est
oui,
vrai qu'on peut pas rester insensible. Mais oui.
Donc scène qui est très bien accompagnée par la musique de Tito et Tarantula.
Ah oui, c'est ça qui nous intéresse.
Oui, non mais c'est bien.
Quel hypocrite.
Non mais c'est vrai. Non mais on est là pour parler musique.
Pardon. Alors Tito et Tarantula, groupe de rock latino qui avait déjà collaboré avec Robert Rodriguez puisqu'ils avaient composé des morceaux pour le film Desperado.
Ouais. Ils ont un vrai style à eux.
Ils ont un vrai style à eux, effectivement. Et ils viennent du punk, ils sont passés au rock, et voilà, c'est des latino-américains.
Et vous connaissez tous les deux ? Moi, je ne connaissais pas du tout Tito et Tarn.
Non, vaguement. Vaguement. J'ai pas vraiment écouté, ouais. Bon, ça donne envie d'écouter d'autres choses, ouais.
Ouais, ils n'ont pas sorti énormément d'albums, genre 5 ou 6, mais. C'est
quand même déjà pas mal.
On écoute ce titre, à défaut de voir la scène. Écoutons le titre dans cette spéciale crossover sur Radio Libertaire 89.4 pour cette émission Au-delà du RL. On y va tout de suite, c'est parti.
Such a sad affair.
Sur Radio Libertaire, à l'écoute de notre spécial crossover d'Au-delà du RL en cette rentrée 2025. Et nous venons d'écouter un morceau qui évoque bien mon état d'esprit maintenant, Bittersweet.
Oh, tu es aigre-douce.
Oui, je suis plutôt amère.
Plutôt dans l'aigreur ou la douceur?
Bah, je suis à côté de Yannick, donc je te laisse tirer tes propres conclusions.
Voilà. Alors, The Venus in Furs, qui est un groupe... Pardon. Moi, je fais comme si vous n'étiez pas là. The Venus in Furs, qu'on vient d'écouter avec le titre Bittersweet, qui est un groupe fictif extrait du film Velvet Goldmine. Alors, qu'est-ce que c'est que Velvet Goldmine? Eh bien, figurez-vous que je l'ai vu pour les besoins de l'émission.
Ah oui.
C'est plutôt pas mal. C'est un film de Todd Haynes qu'on connaît parce que... Alors, lui, il s'est un peu spécialisé dans les biopics ou les biopics fictifs ou réels d'artistes parce que c'est lui qui a réalisé I'm Not There.
Ouais, j'ai pas vu.
De bien sûr un film sur Bob Dylan. Il a fait aussi May December qui est sorti
l'année dernière.
L'année dernière.
Ouais, je crois.
Ouais. Et Velvet Goldmine, lui, il est sorti en 1998. Alors, c'est un biopic sur un groupe fictif, The Venus in Furs, qui a raconté à la manière de Citizen Kane, c'est-à-dire que, en fait, le héros du film meurt au début et un journaliste décide d'enquêter sur sa vie, comme dans Citizen Kane. Moi, j'appelle ça du vol et du plagiat, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors, le film fait un portrait de la jeunesse, de la culture gay, du glam rock britannique des années 70. Et pour les besoins du film, le réalisateur a demandé l'aide d'artistes prestigieux pour incarner ce groupe fictif. Alors, les Venus in Furs sont sur la bande originale, parce que les musiciens, en fait, on les entend dans la bande originale, mais on les voit pas forcément à l'écran, parce qu'à l'écran, c'est Jonathan Rhys-Meyers, qu'on a vu dans Matchpoint et Mission Impossible 3, qui incarne Brian Slade, le leader mystérieux et charismatique du groupe et personnage principal du film. Alors, les Venus in Furs sont donc composés de Andy McKay, de Roxy Music, dont Bittersweet, le titre que l'on vient d'entendre, est une reprise. Il y a aussi Bernard Butler, du groupe Suede.
Ah oui.
Que l'on connaît, Craig McClellan du groupe David Gray, que je connais pas très bien.
Ah si, David Gray.
Moi, ouais, tu connais ça, ouais. Ainsi que encore lui, Johnny Greenwood.
Ah oh, bah dis donc.
Et Tom York du groupe Radiohead.
Bingo,
c'est ça. Et vous allez voir, on va encore parler de Tom York un peu plus tard dans l'émission. On voit également là vraiment à l'image Brian Molko interpréter le rôle de Malcolm, qui est le leader des Flaming Creatures. Un autre groupe fictif du film, mais qui n'apparaît pas, lui, sur la BO. Donc c'est The Venus in Furs, avec le titre Bittersweet, extrait du film Velvet Goldmine. Il faut le voir si vous aimez, bah toi qui, Flo qui aime
les films musicaux. Je l'ai déjà vu, ouais.
Ah oui?
Mais il y a longtemps, ça va, puis bon, j'étais peut-être pas dans un mood très attentif.
C'est pas le meilleur film du siècle, mais bon, on écoute le
reverrai. Je l'ai regardé Rock'n'Roll High School, moi, pour l'émission.
Ah oui. Mais je pensais que c'était le film avec Joe Black, mais c'était pas ça, c'est...
Non, ça c'est Rock Academy.
Ah oui. C'est Rock Academy. C'est ça, je confonds.
C'est autre chose.
Et on va parler d'un autre grand groupe, et plus de cinéma, mais de série. Mais quelle série télé? On va s'écouter. Bah, je dis pas le nom du groupe, non. Mais la série, c'est Game of Thrones.
Ben oui, parce que Yannick, tu as parlé de Radiohead, donc je vais parler de Sigur Rós. C'est généralement on appelle ça l'effet rebond.
C'est ça.
Alors, à l'origine, ce titre de Sigur Rós qu'on va écouter, The Reigns of Castamere, qui est un titre, une chanson, des paroles bien connues par tous les fans de Game of Thrones.
En un seul mot, Castamere.
Castamere. C'est pas Castamere, l'ancien ministre de l'Intérieur, qu'on salue évidemment.
Oui, c'est pas ça la ref.
Donc un morceau bien connu par tous les fans de Game of Thrones, qu'ils soient ils ou elles soient des fans de la série ou du livre. À la base, les paroles sont de George R. Martin, celui qui a écrit les livres, les livres du Trône de Fer, et la musique, elle est de Ramin Djawadi, qui est le compositeur de la série, qui a également officié pour Prison Break ou Westworld, mais voilà, qui a composé la plupart des œuvres musicales de la série Game of Thrones. Mais dans la série, on entend plusieurs versions chantées. Alors, il y a d'abord une version de The National dans la saison 2, qui est pas mal. Moi, j'aime bien The National, en plus, ce groupe.
Ah, The National a chanté The Reigns of Castamere.
Oui, dans la saison 2 de Game of Thrones, exactement. Et Sigur Rós, lors d'un caméo rapide dans la saison 4. Alors, c'est vraiment un caméo rapide. Hein. Ils sont d'ailleurs très vite interrompus par l'horrible Joffrey Baratheon, qui leur lance des pièces pour les humilier.
Oui, oui, je me souviens de la scène.
Et il mourra ensuite dans d'affreuses souffrances. C'est bien fait pour lui. Et ne me remerciez pas pour ce spoil.
Moi, j'ai déjà spoilé de toute façon toute la série à Paulette.
Oui, c'est pour ça. Tu peux raconter, hein. Il t'a raconté la fin alors que tu l'avais
pas. Non, je vais d'abord donner ma version parce que. Non, il y a un litige là-dessus. Elle me dit je me refais les Game of Thrones.
Ouais. Elle a employé le mauvais mot.
Et puis voilà, je me refais les Game of Thrones pour moi.
Déjà vu.
Elle a tout vu.
Eh oui.
Et donc je balance une information extrêmement importante. Je fais, c'est quand même dommage que. Et là, elle me regarde avec des yeux ronds.
Attends. J'avais à peine fini ma phrase. En fait, j'ai assez fan de Game of Thrones. J'ai regardé tout au moment de la sortie, sauf la dernière saison.
Ah, voilà,
tout me bouffait d'un coup. Donc je me suis revue toutes les saisons d'un coup, ce qui représente énormément de temps, en franchissant 10 ans. Sans savoir la fin. Et je dis juste à Yannick, on attendait à la radio d'ailleurs pour lancer l'émission. Je me refais tout Game of Thrones et il enchaîne à la seconde. C'est quand même fou que machin devienne roi à la fin.
Et la toute fin de la série. Mais en même temps, si je te disais, je me refais la guerre des étoiles et que tu me disais, ah bah t'as vu que machin est le père de truc.
Quoi?
Non, mais ça n'a rien à voir.
Je l'aurais cherché, quoi.
Bien sûr, ça n'a rien à voir, bien sûr.
Bon, en tout cas, dans cette scène... Hein, de,
je peux te spoiler la fin de l'émission si tu n'arrêtes pas, par contre.
Oui, ça, on ne veut pas savoir.
Ça va mal finir.
Alors, au final, hein, il faudra attendre la sortie officielle de la BO de la saison 4 pour entendre la version studio que nous, on va écouter tout de suite, hein, parce que dans la série, bah, on entend juste une version acoustique qui est vite, vite interrompue. Et donc, bah, voilà, on va écouter ce titre, hein, Sigur Rós, The Rains of Castamere. Je vous préviens, ça ne met pas du tout en joie. Enlever les couteaux des tiroirs de cuisine des enfants. Petite info concert, le groupe sera exceptionnellement en concert, salle Playel, du 26 au 28 septembre, accompagné par un orchestre symphonique, dites donc.
Pas mal.
Et j'y serai, bien évidemment.
Et toi, tu seras chanceux.
Oui, j'y serai le premier soir. Si vous venez me chercher le 27 ou le 28, je ne serai pas là.
C'est complet ou tu sais pas?
Je crois que oui, c'est complet.
Ah, ouais, forte chance.
En tout cas, ils ont rajouté des dates. À la base, il n'y avait que deux dates mises en vente, donc j'imagine que les trois dates sont maintenant complètes.
Voilà pour vous.
On y va, c'est parti. Donc, on est dans la spéciale crossover avec un groupe qui apparaît dans Game of Thrones. J'imagine qu'il y en a eu d'autres, mais j'ai pas les infos.
Ah bah, il y a Ed Sheeran qui est apparu dans Game of Thrones.
Ah bon? Tu dis ça parce qu'il est roux et qu'il y a un roux.
Non,
un
non,
ah non, non, vraiment gros plan et tout.
Ouais, c'est même trop.
Trop?
Ouais, c'est trop.
On dirait un.
Puis il a pas un physique médiéval, Ed Sheeran.
Parce que toi, t'as un physique.
Bah, regarde Flo.
Ah, Sigur Rós, en tout cas, ça va bien avec le côté islandais.
Je sais pas si c'est un compliment avoir un physique médiéval.
Non.
Tu as un physique médiéval. Je dirais ça à quelqu'un et je verrai sa réaction. On y va tout de suite dans la spéciale crossover de Au-delà de RL sur Radio Libertaire 89.4.
or a parent.
I'm happy to say I had better to do.
What about China? Have you seen the Great Wall?
All walls are great if the roof doesn't fall. The man you will marry, the home you will share.
To be honest, I really don't care.
On était en Islande tout à l'heure avec Sigur Rós. On reste en Islande, Yannick, avec la deuxième ou la première grande ambassadrice musicale en Islande, avec Björk, qu'on vient d'écouter dans cette spéciale crossover.
Crossover, exactement, parce que Björk n'est pas que chanteuse, elle a été actrice aussi.
Oui.
Ça s'est pas tout
mal lui en a pris.
Très bien passé, oui. Parce que, effectivement, on vient d'écouter I've Seen It All, qui est
très bon titre.
Ouais, très bon titre. Et excellent film, malgré tout. Le film, c'est Dancer in the Dark, c'est sorti en 2000, et le réalisateur, c'est Lars von Trier. Que j'affectionne tout particulièrement, même si c'est loin d'être un saint, on va le voir. Le réalisateur danois de Dancer in the Dark, Lars von Trier, qui a en fait vu le clip It's Also Quiet de Björk, réalisé par Spike Jonze, donc elle a déjà travaillé avec des gros réals, avec Gondry aussi notamment. Oui. Et donc quand von Trier il a vu ça, il s'est dit immédiatement qu'elle devait être l'héroïne de son prochain film, qui raconte l'histoire de Selma, une ouvrière devenant peu à peu aveugle et dont le salut viendra de la musique. C'est pas un film à regarder le samedi soir, je vous préviens. tout de suite, mais c'est du grand Lars von Trier, c'est du grand Björk aussi, c'est une excellente actrice. Elle a d'abord refusé le rôle, mais elle a accepté de composer les 22 pistes de l'OST du film qui sortira en album sous le titre Selma Song. Et au bout de 2 ans de refus, elle a quand même cédé à Lars von Trier qui lui l'a mis face au fait que bah, si elle n'acceptait pas le rôle principal, il allait carrément abandonner le film. Mais son courage à Björk a été récompensé, bien sûr, puisque le film a obtenu la Palme d'Or, petit 1, et Björk a obtenu celle du prix d'interprétation féminine, et c'est amplement justifié. Et c'est bien là le moindre mal, hein, parce que Björk témoignera plus tard avoir été harcelée sexuellement par le réal pendant le tournage du film.
Charmant.
Sympa.
Charmant.
Chantage,
mais elle joue extrêmement bien. Alors je sais pas s'il l'a mis dans les conditions comme Kubrick a fait avec la meuf de Shining où on voit des extraits de making of, il la brutalise, enfin, pas physiquement, mais bref, pour qu'elle soit dans le rôle de victime. J'en reviens à Björk. Ce n'était pas la première apparition de Björk sur grand écran. Avant The Turn in the Dark, elle avait tourné dans un tout petit film islandais intitulé The Juniper Tree, et dont la première s'est déroulée lors du festival du film de Sundance. J'ai vraiment envie de voir ce film. Et elle a également, plus proche de nous dans le temps, joué un petit rôle dans The Northman qui sortait en 2022, où elle tient le rôle d'une sorcière.
Yannick, qui chante avec Björk sur ce titre?
Qui, à votre avis? Mais en plus, je l'ai même pas fait exprès. Oui, c'est Tom York qui chante. Je vous jure, en préparant l'émission, j'ai mis de côté des morceaux, machin chose, et à chaque fois, ça tombait sur Radiohead ou Tom York.
C'est fou, ce hasard.
C'est une dinguerie. Et peut-être qu'on en reparlera à la spéciale rétro, je ne sais pas.
Et je lis que c'était Stromae qui devait l'accompagner à la base.
Ah oui, non, c'est Peter Stromae, oui, pardon, l'acteur dans Dancer in the Dark.
Stromae et Björk dans Dancer in the Dark, ça aurait été quelque chose.
Ça aurait été spécial,
ouais, effectivement. Ça aurait été très spécial.
On va faire un reboot. Voilà, on va passer à un groupe européen.
Oui, des artistes qu'on voit rarement, mais qu'on entend beaucoup.
Bah, on les voit rarement, c'est sûr, parce qu'ils sont masqués.
Ils sont casqués, même.
Ils sont casqués, tout à fait. Il s'agit évidemment des Daft Punk, qui furent les têtes de gondole de la French Touch entre 93 et 2021, et en seulement 4 albums, je tiens à le repréciser. Et ils furent bien sûr sollicités par nombre de réalisateurs pour apparaître soit dans la BO de leur film, soit pour faire un petit caméo. Alors, la BO de films de Daft Punk, il y en a moult, mais là ce soir on va écouter les deux, puisque on va s'écouter un extrait de la BO de Tron Legacy de Joseph Kosinski, un film qui est sorti en 2010, qui est la suite évidemment de Tron qui est sorti dans les années 80, j'ai plus la date en tête, et dans lequel notre duo français signe et la bande originale et apparaissent brièvement à l'écran en tant que DJ dans une boîte de nuit virtuelle qui est tirée du film, enfin dans le film, si vous l'avez vu vous voyez de quoi je parle. Alors, c'est pas la première fois que les Daft Punk alias Thomas Bangalter et Guy Manuel des O Même Christo travaillent de concert avec de grands réalisateurs. Évidemment on pense à leur collaboration avec Michel Gondry et Spike Jonze, qui ont signé chacun un clip de leur premier album qui est sorti en 97, mais on peut également les apercevoir démasqués pour de très brefs caméos, et notamment Bangalter qui apparaît dans Réalité de Quentin Dupieux. Oui. On le voit patienter dans une salle d'attente, se faire arracher son journal par un des personnages du film, qui quitte la pièce, ça dure 3 secondes, c'est très drôle. Voilà. Et donc on va s'écouter The Erased, parce que je le répète, parce que je vois que vous aimez mon accent, des Daft Punk, extrait de Tron Legacy, dans cette spéciale Au-delà du RL, 89.4 FM, la spéciale Cross Harbor, of course.
Désolé. Oh,
Sur Radio Libertaire 89.4 FM, l'émission c'est Au-delà du RL, le thème c'est la spéciale crossover et on vient de s'écouter les Beastie Boys.
Tout à fait, avec le morceau She's On It, morceau de 1985 qui figure sur la bande originale du film Crush Groove sorti la même année. Est-ce que vous avez vu ce film ?
Pas du tout. Non. Je ne soupçonnais même pas son existence avant que tu nous en parles ce soir.
Cela dit, moi non plus.
Comme quoi, ça a du beau.
Mais c'était amusant de faire les recherches parce qu'en fait, j'ai pris le truc à l'envers. Je me suis dit, les Beastie Boys, qui étaient quand même connus pour leurs clips assez cinématographiques et impressionnants, ont dû forcément faire des apparitions. Et c'est comme ça que je suis remontée jusqu'à
c'est pas con. Crush Groove. Bravo.
J'ai bossé. Hein.
Oui,
ça. Contrairement à pas tout le monde.
Oui, j'ai distribué mes morceaux. À cette époque, donc en 85, les Beastie sont sur le label légendaire Def Jam, qui a beaucoup fait pour l'essor du hip-hop dans les années 80, en produisant notamment les Beastie Boys, LL Cool G ou encore Public Enemy, mais aussi des groupes plus étonnants de thrash metal comme Slayer, justement, qui encourageait le mélange des deux styles. C'est un peu le cas des Beastie Boys d'ailleurs.
Pas mal, oui, c'est vrai.
Qui viennent du punk et qui et qui ont connu aussi la gloire avec le hip-hop et le rap. Le film Crush Groove, lui, s'inspire largement de la vie de Russell Simmons, que vous connaissez peut-être parce que c'est le frère de Rev Run dans de Run DMC.
Oh, c'est pointu.
Bon, bref, c'est le cofondateur du label Def Jam. Ah, et donc, le film donc, revient sur sa vie et les débuts de Def Jam. Ça donne lieu à de nombreuses apparitions d'artistes phares de la période, comme Run DMC, comme on vient de le dire, mais aussi Curtis Blow ou LL Cool J, mais aussi les Beastie Boys qui interprètent dans une scène de concert le morceau She's On It que l'on vient d'écouter et qui a fait, qui est sorti après en morceau à part entière la même année d'ailleurs. Un peu plus tard, ils font aussi une apparition dans le film Tougher Than Leather de Rick Rubin, qui est l'autre moitié de Def Jam, avec Run DMC en star du film.
Plus dur que du cuir, mais c'est toi, ça c'est ta vie, Paulette.
Vas-y, redis-le nous, Yannick, en anglais.
Tougher Than Leather.
Ça, c'est pas mal.
Je m'attendais à pire.
Pas si mal.
Alors, on va écouter un autre. Quelque chose à ajouter sur la Beastie.
C'est très bien.
On va s'écouter. On va basculer dans un autre genre musical que tu affectionnes particulièrement, j'ai l'impression.
Oui.
Oui.
Enfin, oui,
d'ailleurs,
bien sûr.
Ma mère, que j'embrasse au passage, m'a dit que l'émission d'été.
Avec Henri Scavador. Avec Henri Scavador.
Ma mère m'a dit. Ma mère qui m'adore. Hein,
ouais.
J'ai écouté trois morceaux, j'ai arrêté après.
C'est vrai.
Je pense qu'elle s'entendra bien avec Elena.
Ah ouais.
Parce que je pense qu'ils ont les mêmes opinions.
C'était pas assez, c'était trop récent.
Non.
Elle a pas dit ringard. Elle a pas dit ringard, ma mère.
Ma mère trouve que mes goûts sont ringards.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu l'as dit à l'antenne. Ouais. Ouais. C'est fou ça quand même.
Elle l'a pas écouté l'émission d'été. Je pense qu'elle veut pas me faire de peine.
C'était trop. Ouais.
Mais nous, on va pas se faire de peine. On va se faire du bien.
On va, voilà,
pas
on va revenir aux années 50.
Oui, voilà. On va pas écouter de la musique ringard. On va écouter du Duke Ellington.
La bonne musique.
Ouais, tout à fait. C'était difficile de parler de jazz et cinéma de musique et cinéma sans parler du jazz. Mmh. Parce qu'ils ont été nombreux à composer des bandes originales de films ou à apparaître sur les bandes originales de films. Parce que ça s'y prête quand même très bien. Par exemple, Count Basie, Billy Holiday, Louis Armstrong, Glenn Miller, Cole Porter, ils sont très nombreux. Sans compter tous les films avec les membres du Rat Pack et les autres crooners de l'époque. Bien sûr, la référence, c'est la bande-son d'Ascenseur pour l'échafaud.
Ouais.
Dont la légende veut qu'il ait été enregistré en une nuit par Miles Davis et ses musiciens.
Mais c'est pas une légende, non?
Oui, non, mais enfin, je veux dire, ça participe à la légende du ouais. film.
Parce la
musique est incroyable.
Il avait le montage final devant les yeux et il a joué, il a improvisé pendant tout le film sur le film.
Alors, ils n'ont pas eu le film, ils ont eu des passages du film, justement.
Ah, oui. Ah, des passages seulement?
Ouais, justement, parce qu'ils ne voulaient pas. Enfin, l'intention, ce n'était pas que la musique corresponde parfaitement à l'image.
D'accord, puis ils voulaient pas se spoiler comme moi je t'ai fait avec Game of Thrones.
Ne retourne pas le couteau dans la plaie, l'émission n'est pas finie. Je peux encore partir.
Oh non, raconte-nous la suite.
Il reste un groupe encore, toi. Fini d'abord.
Donc, je reprends. Dans la foulée, donc 2 ans après Ascenseur pour l'échafaud, Otto Preminger propose à Duke Ellington de composer la bande-son de son film Autopsie d'un meurtre, Anatomy of Murder dans le texte, sorti en 1959, donc, dont Duke Ellington a signé la bande originale. Et dans le film, une scène se déroule dans un club de jazz dans lequel joue le groupe PII, qui est un jeu de mots avec PI, Private Investigator, ce qui veut dire détective privé. Ben si vous aviez regardé Véronica Mars, vous le sauriez.
C'est œil de tarte, hein, c'est ça?
Œil de tarte.
Bah là, ça veut dire
oui.
Tarte œil.
Effectivement, oui. Tarte.
Et dans laquelle, donc, dans cette scène, on peut voir James Stewart jouer du piano aux côtés de Duke Ellington. Rien que ça.
Rien que ça.
Ouais. La BO est superbe, elle a remporté 3 Grammy Awards en 59.
Rien que ça.
Rien que ça. Et Duke Ellington est un habitué de la chose, puisqu'il a composé plusieurs bandes originales, dont celle très belle de Paris Blues, qui est une de celles que j'aime beaucoup, avec Paul Newman et Sidney Poitier, dans lequel apparaît d'ailleurs en caméo Louis Armstrong, mais il apparaît pas dans son propre rôle. Donc c'est assez.
Ah oui, d'accord. Eh bien, on va l'écouter, on va écouter ça tout de suite, ça donne envie. On est sur Radio Libertaire 89.4, bien évidemment.
seven wonders of the world I've seen. And many are the places I have been. Take my advice, folks, and see Beale Street first. Street blues. I'd rather be here than any place I know. I'd rather be here than any place I know. It's going to take the sergeant for to make me go.
Dans un spécial crossover d'au-delà du RL sur Radio Libertaire 89.4 FM, bien sûr. Et on s'écoutait à l'instant ma préférée, Paulette Renard.
Oh, je pensais pas que t'allais enchaîner là-dessus.
Avec Ella Fitzgerald et le titre Beale Street Blues.
Oui, Beale Street Blues qui figure sur la bande originale du film St. Louis Blues, film américain d'Alan Reisner qui se base sur la vie du musicien W.C. Handy. Compositeur américain que vous ne connaissez peut-être pas.
J'ai des lacunes côté W.C. Handy, ouais.
Je ne le connaissais pas non plus, mais il a fortement contribué à la diffusion du blues au début du XXe siècle. Donc le film raconte les débuts de ce monsieur, W.C. Handy, jeune homme du sud des États-Unis, dont le père, qui était pasteur, interdisait de jouer toute musique qui ne serait pas religieuse. Mais évidemment, il en faut plus pour le détourner de son destin, et quand il sera un peu plus grand, il croisera sur son chemin des personnages incarnés par Eartha Kitt ou encore Cab Calloway, rien que ça. Et on le voit dans une scène tourner à l'angle d'une rue et apercevoir par la porte ouverte d'un club Ella Fitzgerald, rien que ça, qui interprète le morceau Beale Street Blues que l'on vient d'écouter. Et à noter que W.C. Handy est incarné par Nat King Cole.
Ah oui.
Donc, autant vous dire qu'il y a du beau monde.
Beau casting.
Ouais.
Et un autre casting.
Oui, avec des gens totalement inconnus.
Remarquable.
C'est vrai, en plus, c'était des amateurs.
Mais de qui parles-tu, mon bon Flo ?
Eh bien, on va se quitter et conclure cette émission avec le film The Commitments et le groupe éponyme, le groupe du même nom, The Commitments. On va écouter Mustang Sally, qui n'est pas une composition du groupe, mais qui est évidemment un grand classique de Wilson Pickett. Alors, The Commitments, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un très très bon film du regretté Alan Parker, qui je crois est un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est le meilleur, c'est très possible. En tout cas, il a fait beaucoup de mes films cultes, et beaucoup de films musicaux. The Commitments, c'est un film musical qui raconte l'histoire d'une bande de chômeurs en Irlande qui décide de monter un groupe de soul qui va s'appeler The Commitments, à qui va bien sûr arriver de nombreuses galères en lien généralement avec le succès du groupe, donc évidemment des problèmes d'alcool, de drogue, de filles, de bagarres, de...
Ta vie, quoi.
Tout ce que voulait pas la directrice dont on parlait tout à l'heure, le papa de...
Mais il y a un petit côté... critique sociale aussi à la Ken Loach. Bon, c'est vrai que c'est tourné en Irlande avec des acteurs et des actrices irlandais. Alors Alan Parker, il a pris le temps d'auditionner plusieurs milliers de candidats. En fait, il voulait pas prendre d'acteurs qui soient aussi musiciens, mais il voulait l'inverse. Il voulait des musiciens qui puissent devenir acteurs. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec une bande d'inconnus et d'amateurs et d'amatrices qui étaient avant tout des musiciens et des musiciennes. Ça se ressent d'ailleurs, il y a une espèce de fraîcheur et de naïveté dans les dialogues. On sent que c'est des prises un peu one shot où ils ont vraiment laissé libre cours à beaucoup d'initiatives avec des textes qui étaient peut-être pas forcément écrits, en tout cas pas forcément scriptés. Et donc on retrouve effectivement cette candeur tout au long du film que moi j'aime beaucoup et qui est en plus très drôle.
Que tu recommandes à nos auditeurs?
Oui, évidemment, voilà. Le groupe est fictif, mais en tout cas, même si les acteurs interprètent bien des chansons dans le film, c'est un groupe fictif et ce sont essentiellement des reprises, mais l'occasion de réécouter, de repasser que des bons standards de soul. Ça va de Midnight Hour de Wilson Pickett ou Try a Little Tenderness ou Mr. Pitiful d'Otis Redding par exemple. Et là, on va s'écouter, on va terminer cette émission.
On va se terminer, ouais,
se terminer. Je ne sais pas comment on va se terminer, mais on va se terminer avec Mustang Sally, le classique de Wilson Pickett.
Voilà, rendez-vous le 10 octobre.
Ouais, le 10 octobre, prochain. Ce sera avec un invité spécial. Normalement, s'il est dispo, on ne lui a pas encore demandé, mais normalement, il sera présent. Et encore un nouveau thème. Allez,
bonne soirée à toutes et à tous.
Adieu.
Sur Radio Liberté 89.4 FM, bien sûr. Mustang Sally. Guess who?